Vous écoutez, on lit pour vous.
Des entreprises sous-louent à profit malgré l'adoption du projet de loi 31. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. Les pratiques d'entreprises qui se spécialisent dans la sous-location de logements pour en tirer profit pourraient avoir un effet à la hausse sur le prix des loyers, déplorent des acteurs du milieu locatif. Le tout alors que, depuis 2024, une loi est pourtant venue interdire à un locataire de sous-louer son logement à des fins lucratives. Marie-Clarisse Berger, qui avait opté pour la plateforme Get Your Place afin de trouver un endroit où loger à Montréal, payait jusqu'à récemment 839 $ par mois pour une chambre dans un appartement partagé avec plusieurs colocataires. Un autre locataire, qui a requis l'anonymat puisque son contrat de location est toujours en vigueur avec la même entreprise, débourse depuis avril 2025 869 $ par mois pour sa chambre dans un logement situé dans un immeuble de la rue Falardeau dans l'arrondissement Ville-Marie. On est 7 dans l'appartement qui compte autant de chambres, confie-t-il. Ça met une pression à la hausse sur les loyers, c'est évident, souligne le coordonnateur du comité logement Ville-Marie, Éric Michaud. Des entreprises vont louer des logements qui sont déjà chers sur le marché, puis viennent se prendre une cote par-dessus ça, constate-t-il. Pourtant, depuis l'adoption, en 2024, du projet de loi 31 à l'Assemblée nationale, la sous-location d'un logement locatif ne peut pas servir à des fins lucratives. Un locataire peut tout de même demander des frais supplémentaires à son sous-locataire s'il lui fournit l'accès à des meubles et à différents services, comme l'électricité et Internet. Mais ceux-ci doivent être raisonnables et ne pas servir à tirer profit de la sous-location. Si un propriétaire se sent lésé parce que son locataire sous-loue à profit, il peut mettre un terme à ce bail-là, confirme Éric Sans Souci, qui est porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Or, le changement apporté par ce projet de loi concernait uniquement les locataires résidentiels, précise l'avocat Daniel Crespo-Villarreal. À partir du moment où on considère que ces entreprises sont des locataires commerciaux, ce projet de loi ne s'applique pas à eux. C'est d'ailleurs justement la nature commerciale du lien unissant Get Your Place aux propriétaires de logements avec lesquels elle fait affaire, qui a été utilisée comme argument par l'entreprise dans plusieurs dossiers portés ces dernières années devant le tribunal administratif du logement, afin d'amener celui-ci à décliner sa compétence juridictionnelle. Des chambres non conformes. L'entreprise Get Your Place, qui n'a pas répondu aux questions du devoir, n'est d'ailleurs pas la seule à soulever des préoccupations à Montréal. C'est aussi le cas de Harrington Housing, qui sous-loue des chambres meublées dans des appartements situés dans de nombreuses grandes villes du monde, dont plusieurs centaines dans la métropole québécoise. Une trentaine de ces logements sont situés dans les immeubles du village olympique détenu par Cap Reit, dont des locataires se plaignent des allées et venues d'étudiants et de jeunes professionnels qui occupent temporairement des chambres dans ces bâtiments qui comptent quelque 980 appartements. À la suite de plaintes reçues concernant des logements du village olympique qui avaient été subdivisés pour y ajouter une chambre non conforme à la réglementation en vigueur, l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie a interpellé Harrington Housing. Elle a ensuite dépêché sur place des inspecteurs qui ont constaté en février 2025 que l'entreprise avait respecté ses demandes, notamment en retirant la chambre supplémentaire qui avait été aménagée sans autorisation dans les appartements en question. Lors de cette inspection, aucune infraction n'a été constatée, poursuit l'arrondissement. Harrington Housing insiste d'ailleurs, elle aussi, dans un courriel transmis au Devoir, pour dire que toutes les configurations de nos chambres sont conformes aux normes permises par les codes du bâtiment et de sécurité pertinents. L'arrondissement assure, pour sa part, qu'il continuera à assurer une vigie de la situation dans les prochains mois. Les nuisances vécues par les locataires du village olympique, pour leur part, se poursuivent, soupire la locataire Diane Audet. Cette dernière déplore la présence de ces appartements occupés chacun par plusieurs étudiants, ainsi que des infestations de vermine dans les immeubles. Or, lorsqu'une plainte pour nuisance sonore est faite à Capreit concernant un des logements offerts sur la plateforme de Harrington Housing, la requête est envoyée à cette dernière, qui est bien difficile à joindre, déplore la locataire. Capreit, pour sa part, assure que les locataires des logements offerts par Harrington Housing dans le village olympique doivent respecter l'ensemble de ces règles communautaires. Elle affirme d'ailleurs que les baux signés dans ces appartements ont une durée minimale de 31 jours afin de respecter les règles concernant les locations à court terme qui sont interdites partout dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, sauf sur la Plaza Saint-Hubert. Il ne s'agit pas de location touristique à court terme, poursuit Capreit, qui entend donc continuer de faire affaire avec Harrington Housing. C'était des entreprises sous loue à profit malgré l'adoption du projet de loi 31. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.
Trajectoire de l'électroacoustique au Québec. Un texte d'Esther Bourdage, paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. Depuis la libération du son au 20e siècle en Occident, marquée par l'affranchissement de la domination des recherches centrées sur la mélodie et les notes, les pratiques musicales ont pu se développer de manière protéiforme. L'insertion du bruit, du silence, du hasard et de l'aléatoire dans les compositions, ainsi que l'usage de microphones, de magnétophones, de synthétiseurs et d'ordinateurs ont favorisé l'émergence de nouveaux langages sonores et ouvert la voie aux modulations électroniques, à la musique électroacoustique, aux textures, à la musique algorithmique et à bien d'autres formes encore. Cela fait plusieurs années que le son au Québec affiche une signature particulière. Il est reconnu pour sa capacité à faire s'entremêler les genres et les styles musicaux. Nouvellement arrivé au Québec en 1996, le compositeur français de musique électroacoustique Francis Daumont voyait déjà le son québécois comme marqué d'une disposition hybride, éclectique, qu'il définissait comme le croisement de l'acoustique avec des sources électroniques et d'autres fusions postmodernes de matériaux et de genres. Au Québec, la polyvalence des musiciens et des compositeurs demeure une réalité dans le milieu des musiques nouvelles. Il est commun de constater que les compositeurs du Québec sont impliqués à la fois en électroacoustique, en musique de chambre ou bien en musique orchestrale, en performance in situ et encore en installation audio, pour ne nommer que ces quelques pratiques. Ce contexte a pris forme grâce à la création, au fil des ans, d'organismes et aussi à l'accessibilité au financement gouvernemental qui soutient les démarches exploratoires et les projets novateurs. Ces structures engendrent des réseaux et des échanges culturels à l'international. Les centres tels qu'Avatar à Québec et Oboro à Montréal soutiennent la discipline à travers des résidences, des festivals et des diffuseurs d'art numérique tels que Mutech et Electra exportent leurs productions. Des étiquettes de disques comme Empreinte Digitale contribuent à l'épanouissement de l'électroacoustique et des musiques mixtes du Québec et d'ailleurs. Ces initiatives valorisent l'éclosion d'une grande variété de pratiques musicales allant de l'académisme à l'expérimental. Histoire. Parmi les pionniers des musiques électroacoustiques qui ont jeté un pont entre l'Europe et le Québec, il y a la compositrice québécoise Marcel Deschênes. Elle a fait partie de la première cohorte de Québécois à suivre le cours du groupe de recherche musicale, GRM, de l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF, à l'Université de Paris 8, de 1968 à 1971. Elle a cofondé à Québec, en 1972, le groupe d'interprétation de musique électroacoustique de Laval, JMEL, au studio de musique électronique de l'Université Laval, ESMEL. La théoricienne et artiste audio Lorella Abbé-Navoli étudie les pratiques basées sur la sonification qui rendent audibles des expériences, des phénomènes ou des données qui sont inaudibles. Certains artistes se consacrent à l'amplification, d'autres captent et transmettent des réalités invisibles. Le compositeur James O. Callaghan, par exemple, se distingue par son travail d'amplification qu'il applique à des guitares acoustiques, des pianos jouets et des objets du quotidien tels que des livres. Une œuvre phare de son répertoire demeure « Reasons » en 2012 pour livres amplifiés et électroniques. Les instruments et les objets deviennent dans ce cas des caisses de résonance. En 2021, Nicolas Giannini créait de son côté « Expansion », une pièce pour bloc de glace amplifié. Les interprètes suivaient une partition qui les amenait à intervenir sur les blocs, devenus instruments de création acoustique, faisant ainsi émerger une multitude de timbres et de couleurs sonores. Dans un autre esprit, l'artiste Stéphanie Castonguay rend couramment audibles les ondes électromagnétiques, cette couche invisible qui nous entoure, dans ses improvisations musicales. Les artistes sonores Preston Beebe et Sabi, quant à eux, placent au centre de leur composition la rétroaction acoustique, communément appelée « feedback ». Il et elle contrôlent les modules se sont singuliers dans la pièce « Living Systems » présentée en 2019 pour le premier et dans la performance audiovisuelle « Ephemerality » en 2024 pour la seconde. La pratique créative des compositeurs au Québec advient au sein d'un terreau fertile. Ils et elles entretiennent avec leur médium une relation engagée, ce qui nécessite une écoute sensible et une volonté de pousser les limites de leurs objets sonores. Les démarches des musiques nouvelles révèlent une malléabilité infinie et de multiples possibilités esthétiques y foisonnent. C'était « Trajectoire de l'électroacoustique au Québec », un texte d'Exter Bourdage paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Cozy Oxford Fantasy. Un texte de Caroline Gendron paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. La plupart des amateurs de lecture s'entendent pour dire que lorsque la température est d'humeur orageuse, c'est le moment idéal pour ouvrir un nouveau livre et s'y plonger. L'atmosphère relaxante, créée par les gouttes qui battent presque tendrement notre toit, permet de s'évader dans les contrées les plus lointaines, et ce, dans le confort d'un fauteuil moelleux. Ce sentiment, une chaleur mêlée d'une certaine affliction pluvieuse, est intégré de façon charmante dans certains romans qui entrent dans une catégorie que je nomme « Cozy Oxford Fantasy », c'est-à-dire des romans où l'environnement quelque peu maussade de l'Angleterre me rappelle ces journées parfaites pour s'aventurer dans une nouvelle histoire où la magie nous surprend à chaque page. Trois autrices en particulier m'ont permis de goûter cette pluie du bout des lèvres. La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft, Castlemore, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, Sabran, et Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, Olympe. Dans La chasseuse et l'alchimiste, Alison Saft nous entraîne dans une chasse haletante où, pour sauver ce qui lui est cher, Evelyn doit tuer le Hala, créature mythique qui n'est rien de moins qu'un dieu. Mais pour ce faire, elle a besoin des capacités d'alchimiste de Vess, jeune homme rejeté de tous les maîtres d'alchimie malgré son talent. Son dernier espoir est de devenir l'apprenti de la mère excentrique d'Evelyn qui quitte régulièrement sa fille des mois durant pour poursuivre des recherches énigmatiques. Réunis par le destin plutôt que par choix, ils doivent trouver le moyen d'allier leurs forces et surtout leurs faiblesses pour parvenir à leurs fins respectives. Le personnage d'Evelyn inspire au lecteur la beauté sauvage de la lande anglaise, fouettée par les intempéries, alors que Vess représente plutôt le flegme britannique. Ensemble, ils évoluent dans un tableau gris de tempête et pourtant, leurs aventures n'ont rien de morose. La talentueuse autrice nous transporte dans la campagne européenne avec ce récit qui se dévore en quelques heures seulement. Heather Fawcett, quant à elle, met en scène une protagoniste renfrognée, Emily, qui préfère de loin le travail de terrain, ensevelie sous la terre et la mousse pour observer les fées à la compagnie humaine. Dans le village nordique d'Afsvik, elle s'attelle à la tâche pour en apprendre plus sur les recluses, les fées les moins connues des experts. Mais ce faisant, elle tombe dans plusieurs pièges tendus par ces dernières, tous plus dignes les uns que les autres des vieilles légendes anglaises qui ne cessent de nous mettre en garde contre leur espèce. Entourée par la neige, le froid, une bonne dose de sarcasme et son rival, le professeur Wendell Barnaby, Emily est l'image parfaite d'une lectrice frustrée de se faire déranger à chaque détour. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde est une aventure à l'humour tout à fait anglais, où l'imperturbabilité presque mutine d'Emily, associée à l'exubérance de Wendell, nous fait découvrir le portrait d'une héroïne atypique mais décidément charmante. Finalement, Ada Vivalda nous offre, avec Porcelaine sous les ruines, une romance des plus douces, parfumée par des arômes de thé bu dans les plus délicates porcelaines. Alba, la jeune protagoniste, cherche à protéger l'archipel d'Hibernia, une oasis menacée de tout ce qu'il a accueilli des siècles après qu'elle eût été bannie par les génies. Lorsque l'Ethan Alcor, émissaire d'un archipel voisin, n'hésite pas à user de son charme pour tenter de percer le secret qui l'entoure. La gardienne de l'archipel doit redoubler de ruse pour préserver les secrets qui ont permis à ce havre battu par la pluie de prospérer malgré la misère environnante. le doux battement d'une bruine chagrine, le voile de la brume, la douceur d'un amour incertain, tout cela nous berce pour nous faire vivre une histoire d'amour délicieusement mélancolique. Cette œuvre se lit avec curiosité, passion et avidité. Le Cozy Oxford Fantasy se résume donc, plus ou moins, à cette image stéréotypée de l'Angleterre, où les orages, l'humidité, le froid et le cynisme nous attendent. Pourtant, ces trois autrices ont su m'inspirer un tout autre paysage, où le gris des nuages et le froid de la pluie ne m'ont pas du tout découragé, mais m'ont plutôt enveloppé de ces doux bras tranquilles qui forcent au calme les esprits les plus tumultueux. Accompagnée par les mots d'Alison Saft, d'Heather Fawcett et d'Ada Vivalda, j'ai été totalement séduite par le célèbre charme anglais, prête à savourer ces jours d'automne, un livre de Cozy Oxford Fantasy à la main. Qui sait? La prochaine journée grise vous permettra peut-être de vous échapper également vers l'Angleterre, ce pays au caractère aussi mystérieux que fascinant. C'était Cozy Oxford Fantasy, un texte de Caroline Gendron, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires.
Julien Hénon-Ratel et l'implication citoyenne. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Plus jeune élu conseiller de ville à 27 ans dans le district de Tétroville de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Julien Hénon-Ratel se représentera, à l'automne prochain, pour l'équipe Ensemble Montréal. Ouvertement gay, il s'est vite retrouvé responsable des questions LGBTQ+, dans l'opposition officielle, entre autres. Ce qui n'a pas été une surprise pour lui. Retour sur son engagement, mais aussi sur la création d'un comité consultatif LGBTQ+, à la Ville de Montréal, et la création de l'espace LGBTQ+. D'où vient ce désir de s'engager en politique municipale? Je viens d'une famille pour laquelle la politique était importante. J'habite dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis presque toujours, et durant le précédent mandat de Valérie Plante, beaucoup de choses me dérangeaient comme citoyen, comme des changements mis en place sans consultation, des rues qui devenaient à sens unique, ou encore la difficile négociation pour obtenir le financement du parc de la promenade Bellerive. J'étais donc insatisfait. Et puis Denis Coderre m'a approché et plutôt que de chialer, je me suis dit qu'il valait mieux agir. Donc j'ai accepté la proposition. Pour l'anecdote, mon grand-père, il y a des décennies, s'était présenté au poste que j'occupe actuellement. Mais je tiens à préciser que mon engagement se veut beaucoup plus pragmatique qu'idéologique. Et vous vous retrouvez avec sur les bras les dossiers qui touchent les communautés LGBTQ+. Au sein du parti, on m'a donné rapidement plusieurs responsabilités. L'habitation, l'urbanisme et notamment tout ce qui est en relation avec les communautés LGBTQ+. Nous avons, au cours de ce mandat, fait différentes interventions auprès du conseil municipal, comme de proposer un plan d'action pour le village et déposer plusieurs motions en ce sens. Chargé de ces dossiers, j'ai essayé de les porter de la façon la moins partisane possible, puisque je pense que ce sont des dossiers qui peuvent faire consensus. Par exemple, en 2023, pour la motion concernant la création d'un comité consultatif LGBTQ+, à la ville, j'avais travaillé en amont avec l'administration pour qu'il y ait unanimité lors de la présentation de la motion. Justement, depuis l'adoption de la motion en 2023, on attend toujours la création de ce comité. Pour la petite histoire, dès les manifestations après la descente de police au Sex Garage, dont on souligne cette année le 35e anniversaire, les organisateurs demandaient la création d'un comité LGBT. Et 35 ans plus tard, on l'attend toujours? Effectivement, il ne se passe absolument rien. Après l'adoption de la motion, j'avais laissé le temps à l'administration de réagir, sachant que la création d'un comité ne se fait pas en 2 jours. On m'avait assuré qu'il y aurait une collaboration dans sa mise sur pied. Mais 1 an plus tard, je n'avais aucune nouvelle, donc j'ai relancé Josefina Blanco, qui est responsable du dossier au niveau du comité exécutif. La réponse que j'ai eue ne m'a pas satisfait. Il était question d'évaluer la pertinence d'un tel comité et de penser à faire des consultations avec des organismes communautaires LGBTQ+ et les citoyens-citoyennes, alors que la nécessité de la création de ce comité avait déjà été évaluée avant le dépôt de la motion en 2023, justement après une consultation des principaux intéressés. On peut donner d'autres exemples où l'administration écoute, mais ne bouge pas beaucoup. Pour rappel, la nécessité de ce comité se fondait sur une étude réalisée par l'Institut du Nouveau Monde. Si je suis réélu, il est sûr que je demanderai que l'on agisse pour la création de ce comité. Autre gros dossier, l'édification de l'espace LGBTQ+. On a franchi une première étape avec l'achat de la bâtisse. Reste à trouver le financement pour la rénovation. Pourquoi ne pas avoir jumelé les demandes de financement pour l'achat et pour la rénovation pour gagner du temps? Je dirais que, malheureusement, la situation est la même dans de nombreux dossiers, et surtout quand ils coûtent cher. Il y a 3 paliers de gouvernement et ils doivent collaborer pour avoir la même vision au moment où ils s'engagent financièrement, et il faut s'assurer que ce financement tienne la route. On parle, pour la rénovation de l'édifice sur Sainte-Catherine, d'environ 18 millions de dollars. Et puis, il y a eu des élections fédérales, donc on ne sait pas quel sera l'interlocuteur avec lequel les discussions auront lieu. Il en va de même au municipal avec les élections à venir. Tout changement d'interlocuteur retarde les prises de décision, car ce dernier doit prendre contact avec tous les partenaires. Chargé de l'habitation et de l'urbanisme, je suis au fait de la complexité pour un développeur, peu importe qu'il vienne du privé ou qu'il soit un organisme communautaire, d'obtenir un permis de construire ou pour rénover, en raison de la lourdeur administrative. Il faudrait que l'administration fixe des échéances dans l'obtention d'un permis. Mais c'est un dossier que je suis, bien évidemment. C'était Julien Hénaud-Ratel et l'implication citoyenne. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.